parce que lui-même l'avait promis. Ce texte dans Deutéronome, où il promet la bénédiction si l'on obéit, et il promet la malédiction si on n'obéit pas. Donc Dieu est précisément de respecter ses engagements. Mais cette promesse, elle passe par et à travers la souffrance. Ici, effectivement, c'est très clairement une punition, c'est une correction pour accomplir la promesse de Dieu. Il y a aussi des épreuves qui n'ont rien à voir avec une punition, mais qui servent aussi à nous faire avancer. Des situations qui, on se sent complètement perdu, et Dieu accomplit sa promesse à travers la souffrance, à travers les difficultés. Mais il n'y a vraiment aucune interruption, jamais, dans ce que Dieu fait. Je crois même dans notre Église, on a une période de difficulté, de souffrance. On peut affirmer, j'affirme vraiment que Dieu continue son programme. Et là où il y a des douleurs, des souffrances, des blessures, cette situation sera différente de celle d'avant, elle sera meilleure, elle sera positive pour chacun de nous. Au verset 30 et 31, il est dit, « Et plus tard, quand tout ce que je vous annonce arrivera, quand vous serez très malheureux, vous reviendrez vers le Seigneur votre Dieu et vous l'écouterez. En effet, le Seigneur votre Dieu est un Dieu plein d'amour. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous détruira pas. » C'est un texte dans Deutéronome, c'est pas dans... Pardon, j'ai une erreur de note. Oui, ce peuple est vraiment dans la souffrance. Et je crois qu'il y a, un texte dans la Bible qui illustre bien dans quel état sont ces déportés. Dans le psaume 137, tout le psaume 137, il nous en parle, mais je vais juste lire deux versets, versets 8 et 9. « Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. » C'est la parole de Dieu. C'est terrible. C'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. C'est pas du tout le message de Jérémie pour ce peuple, mais c'est le ressenti. C'est ce que le peuple ressent, c'est ce qu'il vit, et c'est sûrement pas là que Dieu veut le laisser. Quelque part, les faux prophètes l'encouragent dans cette situation de révolte, alors que Jérémie, oui, ils sont là, mais il les encourage à en sortir, à voir plus loin et à vivre. Oui, Dieu les punit, mais Dieu les appelle à vivre. Et leur situation est vraiment très dure. Je me posais la question hier soir, est-ce que ce qui se passait à cette époque-là, est-ce que c'était plus dur que la Shoah ou moins dur ? On ne peut pas vraiment comparer, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Et nous qui vivons ici, on a du mal à comprendre. Peut-être qu'il y a parmi nous des Africains, des gens qui ont fui la guerre, qui ont fui les difficultés, qui ont vécu des choses difficiles et qui se retrouvent dans ces textes. Pour nous, je pense que ce n'est pas très facile. Moi, ça me renvoie un peu à ma famille, à la dernière guerre. J'ai quatre oncles, enfin quatre hommes, donc, qui étaient effectivement en âge de de partir à la guerre et on était sous occupation. Donc le plus jeune oncle, lui, il y a une vache qui lui est tombée dessus, donc ça lui a cassé la jambe, donc il a été épargné. Mais les trois autres sont partis. J'ai un oncle qui est parti en Italie, il est mort sur un grand combat en Monte Cassino. Et mes deux oncles et mon père, eux, étaient incorporés de force en Russie. Il y en a, tous les deux ont été blessés. Et mon oncle, il est revenu avec un éclat d'obus à 2 mm de la colonne vertébrale, un morceau qui est resté, qui est tombé quelques années après. Il a rencontré Dieu, il a été sauvé vraiment miraculeusement dans un combat. Mon père, qui a été deux fois blessé aussi, il y avait des blessures visibles, mais quelque part, c'était rien par rapport aux blessures psychiques. Et cela a suivi toute sa vie. Et très clairement, j'ai compris petit à petit qu'il y avait des conséquences aussi sur l'éducation que j'avais vue. Ce n'est pas juste une blessure comme ça, mais c'est quelque chose qui a des répercussions sur toute la vie. Et il faut s'imaginer, ces gens étaient dans cette situation-là. Cela a des conséquences. Alors, ce qui est très intéressant, c'est vraiment que, oui, c'est Dieu qui les... C'est Dieu qui les punit. Je suis un peu paumé dans mes... Oui, c'est Dieu qui les punit. Il le dit lui-même que c'est lui qui les a emmenés. Au verset 4, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. » À tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Dieu dit que j'ai emmené. Évidemment, vous me direz, c'est Nebuchadnezzar. Et c'est Nebuchadnezzar qui l'a fait et qui emporte toute la responsabilité, qui sera puni par la suite. Mais c'est Dieu qui a permis. C'est la colère de Dieu s'est exprimée de cette manière-là. Exprimée là. Par contre, dès que cette colère s'est exprimée, quand on lit Jérémie profondément, on se rend compte combien il y a la souffrance de la part de Dieu de devoir passer par là. Le peuple souffre. Je vous ai décrit un peu comment ça pouvait être dur, mais le premier à souffrir, c'est Dieu. Dieu souffre de devoir punir. Dieu souffre de devoir détruire Jérusalem, de devoir détruire son temple. Mais c'est un passage obligé. Dieu réalise sa grande promesse à travers ce passage-là. Et là, ils sont complètement perdus, mais la promesse, elle avance inexorablement. Elle s'accomplit. Alors ici, clairement, on voit que la punition de Dieu, toutes les prophéties de Jérémie ne se sont pas accomplies en une fois. Il y a eu trois exils, et en lisant Jérémie, moi j'ai vraiment le sentiment, c'était chaque fois Jérémie appelle à la repentance, le peuple ne répond pas à cette repentance, mais il avait effectivement l'occasion de stopper la punition de Dieu. Il ne l'a pas fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Donc Dieu est allé jusqu'au bout de sa punition, mais n'empêche qu'il est toujours là, il assure le service après-vente, il leur envoie un message, ils se croient abandonnés, mais Dieu leur parle. Ils ne vont pas l'écouter, n'empêche qu'il leur parle. Est-ce que nous allons l'écouter s'il nous parle? Le peuple, il est là, dans la souffrance. Il espère qu'une chose, c'est revenir ici, avant la souffrance. Il ne reviendra jamais. Et quand il est là, il ne revient. Ce ne sera jamais pareil que là. Avec Dieu, après l'épreuve, on aura appris beaucoup de choses de plus. On est toujours un peu plus riche après qu'avant. Rien ne sert de vouloir revenir là où on était, parce que Dieu veut nous mener plus loin que là où nous étions. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Évidemment, le peuple est là à rêver de retour, que les choses soient de nouveau comme avant. Les faux prophètes, ils rentrent dans ce jeu. Ils les encouragent en cela, mais cela ne vient pas de Dieu. Le peuple n'est pas du tout conscient de son état. Alors comment Dieu voit-il ceux qui sont restés ? Il y a quelque chose qui me paraît logique, qui nous paraît logique. Quelquefois, on se dit, tiens, oui, là, Dieu a puni, Dieu a repris. Et puis, ceux qui sont restés se disent, on est mieux que les autres, on n'a pas été punis. Et je crois que sur ce point-là, faisons très, très attention. Ce qui peut sauter aux yeux peut être totalement faux par rapport à la manière dont Dieu voit les choses. Oui, ils sont restés sur la terre promise. Le temple, il n'est pas encore démoli. Jérusalem n'est pas encore détruite. Ils peuvent se dire, finalement, Jérémie, dans ce qu'il a prophétisé, ce n'est pas si grave que ça. Ceux qui ont vraiment péché, ça y est, ils sont partis, Dieu les a enlevés. Ils sont en train d'être punis, c'est ce qu'ils peuvent se dire. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on lit Ézéchiel. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la réalité. Et voici ce que dit le Seigneur. Je crois que le mieux, c'est de reprendre la parole, versets 18 et 19. Il parle de ceux qui sont restés. Je les poursuivrai par l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux une source de terreur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de consternation, de moquerie et d'insultes dans toutes les nations où je les chasserai. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel. Eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, je les envoyés inlassablement, mais vous n'avez pas écouté, déclare l'Éternel. Il y a Osée qui, des années longtemps en avance, avait déjà dénoncé la conduite d'Israël, avait déjà dit ce qui risquait d'arriver. Ils n'ont pas écouté. Dieu n'agit pas en fonction de notre logique. Tous ont besoin du même retour à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nous ? Petit rappel, c'est un message collectif. C'est un texte qui est souvent utilisé pour les mariages ou pour les... Oui, pour des encouragements, c'est très bien. Sauf qu'on oublie souvent le contexte. Et c'est un peu pour ça aussi que je voulais qu'on lise tout le texte, même si on ne parle pas de tout. Il y a plein de passages comme ça qu'on utilise comme des produits magiques, mais il n'y a pas de produit magique avec Dieu. Il a des promesses très profondes, des promesses très, très grandes, merveilleuses, mais qui ne servent à rien si on ne s'y engage pas, qui nous protège de rien du tout si notre cœur ne rentre pas dedans. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas que ceux qui ont péché qui sont punis. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de Daniel, d'Ézéchiel, des amis de Daniel. ils sont déportés. Très clairement, quand on lit Daniel ou Ézéchiel, ce n'est pas du tout des gens qui sont infidèles à Dieu, bien au contraire. Pourtant, ils subissent totalement la punition de Dieu. Individuellement, ils n'ont pas leur place, tout simplement, dans ce qu'ils vivent. Mais notre conduite personnelle peut avoir une influence sur le collectif. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler que, oui, la manière dont je vis peut avoir des conséquences sur la vie de mes frères et sœurs. N'oublions pas qu'il y aura un jour devant le tribunal de Christ, chacun sera jugé vraiment dans tous les détails, mais en attendant, ce n'est que des jugements partiels. Ma vie spirituelle a une influence sur le sort commun. Ceux qui souffrent ne sont pas forcément plus pécheurs. Et la question est de savoir, quelquefois on voit des gens qui souffrent, même parmi nous, et on se dit, oui, mais ça c'est la conséquence de son péché, c'est la conséquence de ce qu'il a vécu. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est important de savoir pourquoi il souffre? Ce qui est important, c'est d'aider cette personne à aller de l'avant et à pouvoir retrouver la paix de cette promesse, la paix qui nous lie à l'Alliance. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu a puni ce peuple. Même dans la punition, il est intervenu pour qu'ils puissent s'en sortir. Il aurait pu les punir et puis voilà, on les met de côté, je casse mon alliance et puis non. Dieu les a punis, mais il assure le service après-vente. Il y a une suite. Alors ce n'est pas à nous de juger nos frères et sœurs dans ce qu'ils vivent, c'est à nous de leur venir en aide pour qu'ils s'en sortent. C'est très différent. Tous, nous avons besoin de chercher Dieu, versets 13 et 14. Et Dieu se laissera trouver. Ce n'est pas nos efforts qui permettent d'accéder à Dieu, mais c'est la grâce divine. Je crois que c'est... Oui, si quelqu'un veut relire le verset 13 et 14. Merci. Dieu se laissera trouver. Ce n'est pas nos efforts qui trouvent Dieu, mais c'est Dieu, sa grâce, qui se laisse trouver. Et pour finir, je vais juste vous... Si tu peux nous mettre la diapo. Laisser un verset qui peut être un encouragement. Qu'il a été pour moi. Après un an de dépression, soigné pour ça, j'ai fait un infarctus et j'étais, au moment où ça m'arrivait, j'étais vraiment là-dedans, complètement paumé parce que cela ne correspondait absolument pas à l'idée que je me faisais des promesses de Dieu et de son alliance. J'avais une profonde paix, même au moment où ils étaient en train de trifouiller dans mon cœur. Mais voilà, il y a des moments où c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Tout simplement, par exemple, au moment de sortir, Le médecin avait bien voulu que je reparte en bus parce que Muriel travaillait et puis je me sentais bien. Sauf que quand je suis arrivé dans le hall de l'hôpital, je me suis rendu compte que je n'avais pas les clés de la maison. Et puis là, c'était un choc et j'ai fondu en larmes, quoi. Là, j'étais vraiment là-dedans, quoi. Mais vraiment, je savais qu'il y avait ça. Et pendant toute cette année de dépression, c'est ce verset-là que je prenais comme médicament très, très régulièrement. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Voilà. Que Dieu puisse vous encourager.